Bonjour Martine Vallon.
Bonjour. Aujourd'hui, j'ai prévu de parler des questions autour des élections, puisqu'on est en période préélectorale, il commence à y avoir pas mal de prises de position et des débuts maintenant de réunions publiques un peu partout. Alors, il n'est pas question pour nous, bien sûr, de s'engager sur le champ politique et de soutenir quelques listes ou candidats que ce soit. Mais par contre, il est important, je pense, de reposer les choses. Bon, on est aujourd'hui sur une période où les élections concernées sont des élections municipales, donc où vont être élus des gens qui sont en prise directe avec les citoyens et dont l'action va bien évidemment avoir des impacts sur notre vie. Et parfois, c'est pas tout à fait clair, c'est pas tout à fait évident. Et je pense que le projet ou la vision que peuvent avoir les candidats sur leur commune, sur l'avenir de cette commune, sur l'avenir et les projets d'aménagement ou de développement qu'ils peuvent défendre, je crois nous concerne tous. Et j'aimerais à travers l'axe environnement, à travers notre vision qui est sur la préservation de la nature et la préservation du bien-être de l'humain au sein de la nature, aborder un peu tous les thèmes qui sont des enjeux pour notre département, des enjeux au niveau de l'environnement et des enjeux donc pour les communes. En fait, parfois, aujourd'hui, les élus municipaux se dédouanent un peu de leurs responsabilités en renvoyant sur les communautés de communes et en disant « bon, ben maintenant, la compétence, c'est plus la municipalité, la compétence, elle est à la communauté de communes ». Et donc, cette délégation semble être à certains moments aussi une délégation de responsabilité. Or, les élus municipaux font partie des élus des communautés de communes et sont partie prenante et sont décisionnaires aussi à ces niveaux-là. Alors, ça paraît pas évident ou ça paraissait pas évident aux citoyens, mais aujourd'hui, je pense qu'avec la dernière loi qui est passée fin décembre, là, sur justement, donc qui s'appelle une loi de proximité et d'engagement, quelque chose, loi engagement et proximité, qui est une loi qui est en lien avec la participation des maires et des élus municipaux dans les communautés de communes et. Il y a un certain nombre de réorganisations qui peut se faire. Et notamment, on va voir arriver au niveau du moment électoral, au niveau de quand on va aller mettre nos bulletins dans l'urne. En fait, les communes au-dessus de 1000 habitants vont avoir deux listes. Une liste pour la commune et une liste pour le PCI. La communauté de communes ou la collectivité. Et ça risque d'être un peu désarçonnant. Donc, c'était un peu. Je voulais reposer ça. En fait, on sait, jusqu'à présent, on savait que les premiers élus de la liste municipale seraient ceux qui représenteraient la commune à la communauté de communes. Ça reste le cas. Simplement, là, ça va être totalement identifié pour ces communes un peu plus importantes. Et on va voir qu'il y a ceux qui sont sur la liste municipale et ceux qui vont être les représentants. Alors, c'est soi-disant, enfin, ça se veut plus démocratique, ça se veut faire apparaître le suffrage direct, mais en fait, parfois, je me dis, c'est pas forcément parce que les deux listes étant connexes, on n'a pas forcément plus de choix pour autant. On va systématiquement élire des gens qui sont sur la liste précédente. Bref, mais Donc ça signifie que nos élus municipaux sont aussi, ont leur mot à dire au niveau de la communauté de communes et donc restent responsables de, des décisions qui seront prises à ces niveaux-là. Et ces décisions, qu'elles soient municipales ou ensuite communautaires, concernent beaucoup d'éléments de notre vie quotidienne. À travers, par exemple, l'aménagement du territoire, donc les questions de construction, de logement, les questions d'urbanisation, les questions d'imperméabilisation de sol, les ZAC, tout ça reste de la décision de nos élus proches. Autre thématique sur laquelle je souhaiterais aborder la question, c'est le plan des déchets au niveau environnemental. C'est le thème, donc en fait, les compétences générales des communes, donc urbanisme, logement, environnement, les écoles aussi, donc restent de la responsabilité locale. Donc, on a là un certain nombre de points sur lesquels des décisions vont, bien sûr, nous impacter et sur lesquels, j'aimerais dire, il est important d'aller interroger les candidats, de participer. En tant que citoyen, on va voter. Donc, pour savoir sur quoi on va voter, il me semble que la question doit se poser sur un certain nombre d'éléments. Alors, on sait que, par exemple, à l'heure actuelle, sur le plan de l'urbanisme, les choses sont organisées, sont cadrées par les SCOT et les PLU. Donc, qui définissent les critères d'urbanisation. Et là, à l'heure actuelle, sur notre département, il y a fréquemment une urbanisation immodérée. C'est-à-dire que les SCOT et les PLU sont conçus avec une idée de développement de la population qui ne correspond pas vraiment à la réalité. Et donc, on fait des projections à 10 ans, à 15 ans, en estimant que la population va augmenter de façon exponentielle. Bon, ça s'est passé, par exemple, sur Manosque, à la suite des projets ITER, par exemple, il devait y avoir un boom de population terrible. Et puis, bon, on s'est bien rendu compte que c'était pas le cas. Et on continue à réfléchir souvent comme ça, ou du moins les PLU et les SCOT sont souvent cadrés en fonction de cette idée d'une... Alors c'est un souhait, c'est un désir, mais c'est pas forcément une réalité et la population n'augmente pas forcément autant. Cela dit, on a bétonné, on a utilisé des terres, on les a bloquées, et souvent... Ces terrains qui sont mis à l'urbanisation sont des terres agricoles, très fréquemment, parce que, en effet, ce sont les terrains les plus accessibles, les plus proches, souvent, des voies de communication, ou bien ce sont des terrains plats, donc il est bien plus facile de construire sur du terrain plat que sur les collines, etc. Et donc, on assiste là à une réduction des terrains agricoles, et quand ce ne sont pas les terrains agricoles, bien sûr, ce sont les zones naturelles. Ce qui veut dire que le projet de la commune, le projet du maire, le projet du candidat, eh bien, il va s'organiser ensuite à travers ces documents-là. Donc, il est important de poser la question et de savoir comment vous voyez la commune. Est-ce que vous souhaitez un grand développement? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour ça? Et qu'est-ce que vous allez faire pour éviter, pour préserver les zones environnementales, pour préserver une certaine partie de la nature, etc. Pour stopper l'artificialisation qui consomme ces espaces naturels et agricoles. Donc nous, on est vraiment sur ce questionnement-là, stopper la destruction et la dégradation des milieux en construisant de façon inconséquente et sans réfléchir aux véritables besoins. De quelle façon on va construire aussi l'étalement urbain aujourd'hui, on se rend bien compte et les choses vont vers une plus grande densification. De quelle façon cette densification va pouvoir satisfaire les citoyens malgré tout et leur permettre d'être à l'aise et d'être dans des maisons confortables aussi. Ici, on a aussi comment peut-être favoriser un certain nombre de mesures qui vont permettre, par exemple, des améliorations de l'habitat, une meilleure isolation, etc., pour aller vers l'économie au niveau énergétique. Donc, tout cet aspect-là, extrêmement important et qui est vraiment du ressort de nos élus locaux, est à prendre en compte. Ensuite, on a, en termes d'enjeux au niveau départemental, on a la question des déchets, on a la question de l'eau, la mobilité, la santé à travers l'alimentation, la culture, le patrimoine, le tourisme. Donc, tous ces éléments-là, tous ces thèmes-là ont un axe qui est dans les mains, je dirais, de nos élus de proximité. Alors, peut-être on va faire une première pause et puis après, je reprendrai sur les autres thématiques.
Il y a 100 ans, commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'était des ferriers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles, c'était des forgerons devenus des meublots. Il y a 100 ans, commune, comme artisans et ouvriers, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commune, comme ouvriers et artisans, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats aux consciences civiles, c'était des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'était des forgerons devenus des héros. Il y a 100 ans, commune, comme l'espoir mis au charnier, ils voyaient mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter Potier. Il y a 100 ans, commune, comme une étoile au firmament, il s'éteignait pour la commune. Écoute bien chanter Clément.
Donc, oui, alors sur ces thèmes différents qui concernent effectivement nos élus locaux, il y a la question des déchets. Déchets ménagers, bien sûr, qui restent de compétences locales, notamment sur le plan, par exemple, de la collecte. Et donc, sur ces aspects-là, la gestion de la collecte des déchets ménagers, c'est quelque chose qui nous impacte directement. C'est-à-dire que si les choses sont bien organisées, ont été réfléchies ça va à peu près, mais on voit là, avec toutes les réorganisations qui ont eu lieu sur nos secteurs, sur notre département, dans ces derniers mois, dans cette dernière année, on voit la difficulté pour les citoyens, la difficulté pour les gens de savoir... Comment trier, enfin, où mettre ces déchets, les changements de collecte et les changements de type de lieu d'apport et de bac dans lesquels mettre les déchets. Donc, on se retrouve maintenant avec des communes qui sont en tri, deux grands bacs, en biflux, en triflux, enfin bon. Ça devient complexe et on se demande parfois si c'est vraiment efficace. Et donc ça aussi, cette question-là de la propreté générale, alors à travers par exemple les questions de décharges sauvages aussi, ça c'est l'aspect pouvoir de police du maire. Qui peut intervenir lorsqu'il y a des décharges sauvages sur sa commune et qui peut prendre l'initiative de faire enlever ces décharges et de faire payer celui qui les a effectuées ou celui qui les stocke. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, c'est une question qui peut être posée à un candidat, de lui demander, bon, qu'est-ce que vous comptez faire sur un département comme le nôtre qui souhaite avoir un environnement joli, touristique, agréable, etc. Bon, que faire? Que comptez-vous mettre en place sur ces questions-là? Comment est-ce que vous allez agir? Mais c'est aussi... toute la propreté urbaine et sur les points d'apport volontaires, comment c'est organisé. Je viens de en rentrant dans Digne, là je me suis rendu compte sur un des points d'apport, les conteneurs sont pleins, les déchets sont au pied des conteneurs, les sacs sont là en vrac.
Il y a un peu la grève aussi.
Alors, est-ce que c'est la grève qui fait...
Des éboueurs en ce moment.
En ce moment, sur Digne. Donc, oui. Donc, ça doit... Alors, je ne sais pas, ça fait quelque temps que je ne suis pas allée à Marseille, je me demande ce que ça peut faire. Mais bon, effectivement, donc ça on le voit, quand il y a un dysfonctionnement, ça impacte tout de suite et on voit tout de suite la difficulté que ça peut engendrer et l'état des lieux que ça peut faire lorsque les choses fonctionnent mal. Et donc là aujourd'hui, effectivement, il y a c'est cet aspect de choix et de comment on va aider la population à prendre en charge cet aspect-là et à ce que les gens ne se découragent pas, parce que c'est ce qu'on voit arriver assez vite, le découragement. J'ai trié, mais je ne sais plus comment il faut tirer, où il faut mettre, et donc je laisse tomber. Après, nos propositions sont aussi à ce niveau-là de faciliter le développement au niveau communal ou communautaire des structures qui travaillent sur la réparation et le réemploi, le recyclage, les repair cafés, les associations d'insertion qui œuvrent dans ce domaine, etc. Donc là aussi, en fait, le soutien parfois du milieu associatif par une municipalité, quand on travaille en collaboration, quand on travaille en partenariat véritablement entre associations et collectivités, ça donne des résultats souvent très intéressants. Et on le voit... les associations, quand elles se voient... accueillis par la collectivité, quand on leur facilite le fonctionnement, quand on leur facilite la tâche, souvent ça a un impact très, très intéressant et très important dans ce qui se fait, que ce soit sur le plan de l'environnement bien sûr, mais la culture, le patrimoine, enfin toutes ces associations qui travaillent dans ces domaines. lorsque le choix de la municipalité est de les favoriser, ça donne vraiment de très beaux résultats. Donc ça, c'est un aspect important. Voilà, donc après il y a aussi peut-être des choses qui peuvent être faites sur ces plans de déchets, la collecte de déchets recyclables en point d'accueil volontaire par exemple, pour permettre de recevoir toute la palette des déchets ménagers et tout le mélange, enfin ça peut être aussi quelque chose qui favorise le recyclage et qui évite que beaucoup de choses soient maintenues dans les déchets résiduels et les lieux de stockage. Donc tout ce qui va être réfléchi et organisé en ce sens-là, et tous les projets qui sont faits dans ce domaine peuvent être intéressants. Autre point aussi qui concerne ces questions de déchets, c'est les déchets verts. Donc là, on a à la fois les déchets verts qui sont les issus du travail municipal, je dirais, hein, de l'entretien de toutes les jardins, pelouses, ronds-points, etc. Donc il y a tout cet aspect-là, plus tout ce qui est aussi apporté par les habitants qui ont taillé leur haie, leur arbre, etc. Et donc là aussi, on se rend compte que, et donc là aussi, l'impact de ce que font les citoyens qui ont un jardin, s'ils brûlent les feuilles ou s'ils les compostent, c'est la différence. Et donc là aussi, il y a un travail à faire, notamment sur la valorisation des déchets verts, sur leur traitement, leur utilisation, sur et sur la sensibilisation. De tout le monde au fait qu'il faut essayer d'arrêter de brûler et d'aller vers un autre système. Mais même chose, si on aide le citoyen et s'il y a un lieu au niveau de la commune où on sait qu'on peut apporter ses déchets verts, qu'ils vont être là, broyés, compostés, etc., c'est complètement différent d'une commune où rien n'est organisé, rien n'est mis en place et où on doit se débrouiller, et donc où la plupart du temps les gens mettent dans la poubelle classique leurs déchets de jardin. Donc c'est tout ça, ça fait partie, je dirais, d'une vision, d'une organisation de la vie quotidienne et d'une vision d'un projet de gestion au niveau d'une commune et d'une communauté de communes, puisque là, ça va être aussi en lien. Après, on a tout ce qui concerne aussi la question de l'eau. Donc, cet aspect de... alors, l'assainissement, donc là aussi, les choix qui sont faits en termes de processus d'assainissement, de structure d'assainissement, une step, pas de step, une forme d'assainissement plus naturel ou pas, enfin, etc. Donc il y a effectivement des choix qui sont impactants en termes d'environnement. Il y a la question aussi de la santé, enfin de la pollution potentielle des rivières. Donc ce côté-là aussi est un aspect qui doit être pris en compte. Par exemple, la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, alors on revient là au document d'urbanisme, puisque dans l'élaboration des documents d'urbanisme, l'imperméabilisation des sols par les constructions, etc., entraîne ou peut entraîner une diminution des qualités de l'eau, une diminution de la circulation et donc du cycle de l'eau. Même chose aussi sur la question de l'eau. En fait, accompagner l'adaptation du territoire aux impacts du changement climatique. Donc, travailler au niveau local sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Contribuer aussi à l'amélioration de la gestion de la ressource. Donc on le voit aussi aujourd'hui quand il y a des arrêtés sécheresse, bien sûr c'est tout un chacun qui est obligé d'en tenir compte. Donc ça veut dire aussi là, selon les communes, il y a eu ou pas une réflexion préalable. On va permettre aux gens ou pas d'utiliser plus d'eau, ou bien on va essayer d'étaler la période de restriction, ou bien on va essayer d'amener des solutions. Donc ça, bien sûr, ça fait partie des éléments qui sont à prendre en compte. Même chose, les responsables des communes aujourd'hui vont aussi participer à ce qui est ce qui concerne les contrats de milieu, donc les SAG, les SDAG, donc les schémas qui sont les schémas autour des rivières pour justement améliorer cette prise en compte du milieu et de l'organisation qui va aller vers une meilleure organisation au niveau du partage de la ressource, par exemple, etc. Donc ça, là aussi, c'est des éléments qui sont à réfléchir. Autre aspect en lien avec l'eau et les rivières, c'est la gestion des risques d'inondation. Les maires sont au premier plan pour donner des permis de construire. Les PLU sont là pour déterminer aussi des zones constructibles, inconstructibles, des zones inondables, etc. Donc comment on va réfléchir avant d'avoir la catastrophe à essayer de l'éviter et à ne construire que dans des zones qui présenteront le moins de danger.
Là, il faut espérer qu'avec tout ce qui est arrivé comme inondation... Ça sert de leçon pour
oui.
Tous les permis de construire qui ont été donnés il y a quelques années dans des zones...
Tout à fait. Et donc là, on se retrouve aujourd'hui effectivement avec des situations catastrophiques. Alors des gens qui vivent l'inondation et puis ensuite des gens dont les maisons non seulement se dégradent, qui au bout de... Enfin, on a vu multiples reportages là-dessus sur des gens qui ont été inondés deux fois, trois fois. Effectivement, aujourd'hui, cette question-là, me semble-t-il, arrive au devant de la scène quand on établit un PLU et qu'on définit des zones constructibles ou non. Cela dit, je ne suis pas complètement convaincue que l'idée soit vraiment devenue totalement consciente dans dans l'état d'esprit. Il y a une énorme pression. Alors nous, peut-être un peu moins, on a une chance effectivement d'être sur un département où la pression foncière et la pression immobilière est peut-être moins importante que sur les zones côtières, par exemple. Mais j'ai vu, enfin, dans le Var où il y a eu de multiples événements catastrophiques... Les prises de responsabilité et les prises de décision ne sont pas forcément encore tellement évidentes. Il y a de tels enjeux au niveau financier que ça va être difficile de faire évoluer. Et là, on se bat effectivement et on a parfois une image... assez négative quand on dit mais ça fait des années qu'on alerte, ça fait des années qu'on vous dit stop à la construction dans des zones inondables et sans résultat parfois. Alors, donc il y a ces, effectivement ces aspects-là. Après, nous, sur le département, peut-être que la question des inondations est moins prégnante malgré les événements qui ont eu lieu ces dernières années. On a un autre, je pense, un autre point sur lequel il est nécessaire aujourd'hui d'être vigilant, c'est la forêt. Et notre forêt est pour partie forêt communale. Bon, il y a énormément de propriétaires privés, mais il y a aussi beaucoup de forêts communales sur notre département. Et à l'heure actuelle, la pression sur la forêt est en train de monter fortement. Et donc ça aussi, c'est une question à poser à un candidat. Comment est-ce que vous voyez sur les communes qui ont des secteurs forestiers importants, qui ont des secteurs de forêt communale assez vastes, quel est le projet sur cette forêt, sachant que aujourd'hui la conception de l'utilisation du bois en termes d'énergie est en train de monter fortement. Sur notre département, le discours est un peu de dire on a peu de bois d'œuvre, notre forêt n'est pas une forêt super intéressante en termes de bois d'œuvre, donc on va aller vers le bois énergie et développer ça. Mais si on développe les chaudières à bois énergie, les chaudières locales, donc c'est une idée qui est intéressante d'utiliser une ressource locale pour sur le plan de l'énergie pour aller vers la transition. Mais si on a cette pression là plus la pression de Gardanne, qui est cet énorme méthaniseur, enfin c'est pas méthaniseur mais c'est la transformation de l'unité charbon en unité bois pour fabriquer de l'électricité. Donc c'est une c'est un projet qui est en cours de réalisation, qui à l'heure actuelle utilise des bois importés, mais le projet est d'aller vers l'utilisation de bois régionaux, locaux. Donc ça, par rapport à la forêt des Alpes de Haute-Provence, c'est un véritable danger. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va... Je n'ai pas les chiffres en tête en termes d'utilisation, mais c'est des tonnes et des tonnes de bois quotidiennement. Et donc, quand on rapproche ça du temps que met un arbre à pousser, on se dit que d'ici une dizaine d'années, on peut avoir un paysage totalement changé. Donc là aussi... Je dirais la politique, c'est une vision du monde aussi qui se met en route et qui se met en œuvre. Et donc, les questionnements qu'on peut avoir vis-à-vis de candidats, c'est de leur dire ben, qu'est-ce que vous voyez, vous ? Quels sont vos choix par rapport à l'avenir ? C'est cette vision de l'avenir qui peut nous permettre de déterminer si c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance ou si c'est quelqu'un dont il vaut mieux se méfier. Alors, peut-être encore une toute petite pause et après je terminerai sur les autres aspects santé, alimentation.
Le temps des cerises et gay rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde.
Oui.
Voilà.
Donc on reprend. Oui, alors je terminerai avec peut-être deux autres points qui me paraissent importants, bon, puisque je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'aux sept points que j'avais prévus. C'est la question de la santé et de santé-alimentation et la question de la mobilité, qui sont aussi deux éléments importants en termes de bien-être humain et d'environnement. Donc la santé avec la responsabilité des communes sur le plan des écoles, par exemple, avec à la fois l'accueil des enfants et l'environnement dans lequel on peut accueillir les enfants et comment on conçoit une école agréable et favorable à l'épanouissement des enfants. Donc quand on voit parfois sur des communes qui pourraient avoir l'espace suffisant pour organiser des lieux agréables pour les enfants et qui les confinent dans des toutes petites cours où on est obligé de scinder les lieux des plus petits et les lieux des plus grands parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et parce qu'ils se bousculent. Donc il y a tout cet aspect, je dirais, de vision générale, mais il y a aussi la question des cantines, donc l'utilisation d'une alimentation bio ou pas, et comment on favorise l'alimentation avec des produits de proximité, des produits de bonne qualité. Et puis, au-delà aussi de la simple santé des enfants, je dirais, il y a la santé de la population en général. Et donc là, la position concernant les pesticides, par exemple, on se rend compte aujourd'hui que tous les plans éco-phyto qui ont été mis en place par le gouvernement ne fonctionnent pas. On se rend compte que on est en augmentation de consommation en termes de vente de produits phytosanitaires. Les courbes montent malgré tous les discours et tous les plans. Donc aujourd'hui, il est déterminant que les responsables locaux, que les élus locaux s'engagent et s'investissent dans la lutte contre les pesticides. Alors qu'il y ait des politiques communales zéro phyto, mettons en place des discussions, des partenariats pour faire diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires, mais aussi pourquoi pas des arrêtés municipaux ou des chartes locales qui soient négociées entre les habitants et les utilisateurs. De l'information. Alors aujourd'hui, les interdictions d'utilisation de certains produits sont faites pour le citoyen lambda. Donc déjà, là, on a une évolution des choses. Peut-être faut-il aller encore dans la sensibilisation et l'éducation sur ces thèmes-là. Mais là, il y a un réel souci de santé publique, et je crois qu'il est temps de prendre en compte ces aspects-là de façon forte. Donc ça, c'est un des éléments. Et le dernier élément que je voulais aussi aborder, c'est la question de la mobilité et donc de l'évolution de nos formes de mobilité et de la façon dont on peut favoriser à la fois les transports en commun, alors en utilisant peut-être parfois les transports scolaires, enfin comment organiser ça, mais bon, c'est une question qui peut être prise en compte tout à fait par les collectivités locales. Et puis, les aspects pistes cyclables ou parking de covoiturage. On se rend compte là que dans certaines communes, des efforts ont été faits, des choses sont organisées, des choses sont faites, des pistes sont... pas toujours très cohérente. Et donc là...
Il n'y a qu'à voir à Digne, les pistes cyclables qui sont à la fois pour les piétons, en fait c'est n'importe quoi, et il y a vraiment à chaque fois, il n'y a qu'à voir le long, juste avant le Tivoli, là, il y a une piste cyclable, enfin, le long des arcades, et elle tourne un peu avant le rond-point, elle revient sur la route, mais c'est mortel, quoi, si on suit cette...
Si on suit cette piste,
piste-là...
Et je pense que ça, ça fait partie vraiment des choses qui peuvent être discutées et négociées avec les utilisateurs, avec l'association des cyclistes ou je ne sais quoi, parce que c'est dit, mais Manosque, c'est la même chose. Mmh. On a des bouts de pistes cyclables qui ont été inaugurés à grand renfort de rubans coupés.
Oui, c'est bien, les petits bouts, mais alors après, les jonctions, c'est catastrophique. Ouais.
Et on a la même chose avec les parkings de covoiturage, où certains sont inutilisables parce qu'on ne peut pas en ressortir, ou on ne peut pas tourner, enfin bref. Et donc, voilà, ça c'est du quotidien. Et c'est à prendre, vraiment, ça dépend vraiment des positions et des choix municipaux. Voilà, je crois que...
Il est temps de se quitter. Martine Vallon, merci pour cette émission et je rappelle
qu'elle
sera en ligne.
Donc, elle sera en ligne. Voilà. Sur notre site, vous aurez des compléments d'informations sur ces questions-là. Et n'hésitez pas à aller questionner les candidats.
Merci.